Bien, nous allons donc entamer cette table ronde sur un sujet assez intéressant et assez inhabituel dans les littératures que nous professons ici. C'est la notion de communautarisme de nouvelles frontières imaginaires. Alors, la notion de communautarisme en soi est une notion assez précise. Bon, on va pas faire de la philo non plus. De haut vol pour démarrer. Il se trouve que nous avons quatre invités de quatre nationalités différentes. Donc la première approche que nous ferons, ce sera évidemment de comparer nos notions du communautarisme, ce qu'on en sait, ce qu'on en pense, avant toute chose. Donc pour commencer, à ma gauche, nous avons Dmitri Gloukovski, qui est un jeune auteur russe, qui a écrit un roman post-apocalyptique qui s'intitule Métro 2033. Et donc, comme vous vous en doutez, après l'apocalypse, les survivants ont trouvé refuge dans le métro. Pierre Bordage, qu'on ne présente plus, là, qui s'est mis sur le canal 11, qui est la traduction vendéenne, donc, qui publie de nombreuses séries, trilogies. Et là, on est dans une pentalogie, La Fraternité du Panka. Peter Watt, alors qui va bien nous aider, puisque Peter Watt est biologiste, il travaille en biologie marine, et il a écrit deux romans, enfin il a écrit plusieurs romans, dont deux ont été traduits en français, dont Starfish, je pensais à un autre livre, qui est le premier volume de sa trilogie. Si j'ai plus les noms en tête, ça va plus. Hein. Vision aveugle, c'est pour ça qu'on a des feuilles, c'est les antisèches. Et donc China Mieville, qui lui est l'auteur d'une série thématique, Perdido Street Station, Les Scarifiés, Le Concile de Fer, le roman jeunesse L'Ombre, dont on a parlé tout à l'heure, et il y a le peuple des rats, et aussi un autre roman qui avait été traduit, si je me souviens bien. Oui, c'est bon. J'ai tout noté. Voilà. Donc, on va débattre tous les quatre sur le communautarisme. Alors, en allant dans un dictionnaire de base, le dictionnaire nous dit que le communautarisme, c'est la définition française, c'est lorsque les droits d'un individu risquent de devenir différents en fonction de son appartenance à une communauté, qu'elle soit fondée sur une religion, sur une ethnie, sur une langue. Voilà, c'est ça la définition française du communautarisme. Alors ce serait intéressant, et c'est ce qui conditionne un petit peu notre société à nous, et conditionnant notre société à nous, ça conditionne également la représentation de sociétés différentes dans les romans de science-fiction de nos auteurs. Donc ce serait intéressant de s'interroger sur la pertinence de cette définition, sur ce qu'en pensent les auteurs, s'ils sont pour, s'ils sont contre. Pierre Bordage, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu penses du communautarisme tel qu'on le pense en France et est-ce que tu en fais toi ?
À la fin de journée, donc on va faire des résumés un peu brutaux.
Moi, j'espère que vous avez bossé.
Hein. Je pense que le communautarisme ressort de l'instinct grégaire, sentiment d'appartenir à un groupe, et je pense que c'est un conditionnement. Et comme tout conditionnement, je pense que c'est l'ennemi de l'humanité, en gros. Il est sûr que les gens ont envie de partager les mêmes valeurs quand ils parlent les mêmes langues et tout ça, mais être communautariste, c'est-à-dire ne se référer qu'à sa communauté, est à mon avis, et ce n'est que mon avis, hein, l'une des causes fondamentales de la plupart des conflits humains. Voilà. Et je suis donc tendance à rejeter tout conditionnement, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que je pense que le conditionnement, c'est ce qui nous éloigne de l'humanité. Et le communautarisme, à mon avis, toujours, humble avis, fait partie des conditionnements qui nous éloignent de l'humanité. C'est-à-dire que ça empêche de regarder l'autre tel qu'il est, parce qu'on est toujours référencé à quelque chose. Et étant toujours référencé à quelque chose, on a forcément une vision biaisée de l'être humain.
Merci.
De rien.
Je pose la même question à Dmitri, à côté de moi, sur la manière dont on manipule cette notion de communautarisme en Russie, et puis dans cette Russie contemporaine.
Déjà, il faut comprendre que la Russie contemporaine, c'est quelque chose qui hérite, c'est les traditions, les territoires, la culture, beaucoup plutôt celle de l'Union soviétique que de la Russie monarchique. L'Union soviétique, c'était une communauté synthétique créée sur les ruines, sur l'héritage de l'autre côté, d'un côté de la Russie monarchique, religieuse. De l'autre côté, c'était quelque chose qui a été créé exprès pour réunir les mondes, le monde et les peuples très dispersés, très différents, de point de vue culturel, de point de vue linguistique et d'autres points de vue. Donc ils ont créé une identité un peu fausse, un peu synthétique, mais qui persiste jusqu'au présent. Il faut dire que les Russes sont... il y a juste 60% de Russes en Russie. Tous les autres sont soit des mélanges, soit des minorités ethniques. Mais les Russes, comme identité, c'est quelque chose qui se base beaucoup sur la langue russe. Et la langue russe, elle est toujours la même langue qu'on parle aux frontières extrêmes ouest, aux frontières extrêmes est. Il n'y a pas beaucoup de prononces, il n'y a pas beaucoup de dialectes. C'est toujours la même langue qui est établie par la télévision, qui est implantée un peu et supportée par la télévision ou par les politiciens. C'est très important. C'est très, très difficile de soutenir un territoire tellement énorme et autant d'ethnicité. Il y en a plus de 140, je pense. Et sur la même, je dirais, vague, sur la même fréquence. Donc c'est pour ça qu'on doit un peu renoncer à l'identité ethnique russe, à l'identité religieuse orthodoxe chrétienne, et renoncer un peu à toutes les références culturelles des petits peuples ou des grands peuples même qui inhabitent le territoire russe. Donc on est maintenant, on a inhérité l'identité soviétique qui dit que la langue peut-être c'est le seul identifiant que puisse nous unir et nous maintenir ensemble. Après, c'est des traditions soviétiques ou post-soviétiques, des fêtes les plus importantes, c'est des fêtes qui ont été inventées. Le Nouvel An, par exemple, qui est une réincarnation de Noël, mais privé de tout sens religieux traditionnel. C'est une identité un peu bizarre, mais la seule identité confortable dans laquelle on peut coexister, nous, en peuple de 140 millions, 143, et de plus de 130 d'ethnicité, et de plusieurs religions, des bouddhistes, des chrétiens, des musulmans, etc. Donc la communauté, communautarisme, pour nous, c'est quelque chose de très particulier. Et ça, je n'ai pas encore touché les questions des idéologies. D'accord. Juste pour vous pas confondre.
Voilà. D'accord, bon, on en reparlera tout à l'heure, de toute façon. Maintenant, on va poser la question à Peter Watts, au Canada.
I would actually rather speak as from my background as a biologist than as a Canadian. And while I would agree that
très bonne idée, très bonne idée.
While I would agree that the whole idea of gated communities, communalization, whatever you refer to it, is probably the fundamental source of much of the discord that the race experiences. I disagree that it gets in the way of what we are. I think it's absolutely intrinsic to what we are. We fight a lot. We don't like each other. We have competitions. There's a fair amount of evidence out there that certain types of societies live, certain types of tribes have longer lifespans than others, and that some of the strictures, some of this can be explained by the fact that they have more rigorous strictures. Some of the more absurd and draconian religious practices of some communes and so on tend to act as sort of a high price of entry that prevents cheaters from getting into the system. You can sort of look at these things not in terms of whether or not the beliefs of a given society are factually true or not. Obviously, in the case of most religiously founded societies, they're not. But you think of them in terms of whether or not they work to promote social cohesion. And what you find is not only that societies with a religious foundation tend to survive longer than those which are secular, but that even within, we're looking at fairly small societies here. We're looking at sort of between the 18th and the 20th century communes existing within larger countries of perhaps a few hundred members. And you find that even within religious societies, the ones that tend to survive longest over time are the ones with the most draconian, nasty rules, the ones with a sort of a surveillant peeping Tom gods who send you to hell by, you know, because you masturbated at night and you have committed sins in your heart, even though you may not have actually committed them against your neighbor. Oddly enough, these kind of anti-rational totalitarian states, in a purely Darwinian sense, seem to last longer than others, and especially even longer than those who believe in deities, but more benevolent and loving ones. And I don't take much comfort from this, but I don't think there's much getting away from it either. Our brain stems are still basically in control, and we are fundamentally a pretty nasty species.
I think. Ok, la parole est à Chaina Mieville maintenant.
I think. Is this on? I think one thing I would really want to stress is that Dimitri said, you know, talked about all the different communities, and then without even getting into ideologies, but in a sense, the concept of community itself is intrinsically and always already an ideological word. There is no such thing as community which is segmenting itself off from other communities without an ideology right there. The question of what that ideology, the specific content may vary, you know, from time and place and so on. But I think what's very important for me is that these identities, these communities are always constructed, and generally they're constructed against a different community. And generally, they are not thrown up by some kind of like the froth on the sea by the kind of inevitability of history, but rather what's happening is that somebody or somebodies within one group generally has an agenda, and it is very helpful for their agenda to persuade as many other people as possible within a group. This is what defines our group. This is our community, and this is what differentiates it from everyone else. So, in other words, I think community is something that is done to us. It is done to not just to the community, to the other communities it casts out, but it is also done to those of us supposedly in the in-group by creating divisions where those divisions need not be there. So I don't think that communitarianism is inevitable. It kind of depends on your definition, but I don't think it's inevitable. I don't think it's politically neutral, and I don't think it is simply thrown up by the fact that people live in groups. I think it is something done, often very deliberately, with a very specific agenda. And while I agree with it about its pernicious effects, I think that there are often people we can point to and say, these pernicious effects are being pushed forward by you deliberately for various reasons. And I can think of all kinds of examples of this, as I'm sure we all can. I mean, the recent kerfuffle over Roma in France, for example, the treatment of various gypsy groups in France has been, and I say this not to single out the French, we have plenty of examples in Britain which are, you know, at least if not more shameful, but I think that this is not something that's been thrown up by history inevitably. I think it's being done deliberately.
Merci. Ça marche ? Oui. Je voulais réagir sur la définition, justement par la définition du mot communautarisme. Et le mot communautarisme, à mon avis, n'a rien à voir avec le mot communauté, puisque nous faisons tous partie d'une communauté, d'une façon ou d'une autre, communauté nationale, communauté familiale, communauté internationale, communauté de tout ce qu'on veut, professionnelle, etc. Alors que le communautarisme, parce que c'est bien la question du communautarisme.
Communautarisme, hein, tout à fait.
Ouais. C'est bien l'exaltation des valeurs d'une communauté au détriment des autres communautés. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle dans le mot communautarisme.
Et là, je pense qu'on outrepasse complètement la communauté, comme si on n'était plus capable de sortir de sa communauté d'un seul coup. On était auto-référencé, enfermé dans sa communauté, et qu'on excluait toute autre forme de vie, quoi. Et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, de façon un petit peu provocante. C'est vrai que je pense que le communautarisme, c'est un des grands dangers pour l'humanité, à mon avis.
Oui. Oui, c'est...
I would, not disagreeing with that. I would like to look get some insight as to what you folks think about the mechanism involved. Like, for example, yes, you can definitely point to a particular character or a particular charismatic leader and say, yes, you are doing this to us. It's pretty natural that any organism is going to look out for its own best interests, and life has been described as a struggle for existence at the expense of other life. The question is, what is it about what those individuals are doing that gives their particular agenda and the story that they are selling such broad appeal? Why do certain stories work in terms of generating an isolationist community, whereas other ones don't? It's not just a function of the people who happen to be in power. They got in power by being charismatic, by doing something that appealed to a wide variety of or to a wide range of the population that they are a part of. And in that sense, I would argue that we do it to ourselves. What we're dealing with is an individual that exploits, that can hack a weakness in the system. But the weakness is that of all of us at the same time. I don't know if anybody has any thoughts on that or whether they just want to tell me I'm full of shit, but that would be the point I would raise.
I would want to be careful about this because actually I think a lot of the time, I mean, I think it's a completely legitimate question to say, you know, why do certain people achieve power at certain times? And sometimes it is absolutely a question of charisma and, you know, it is possible for people whose agendas, communitarian agendas or communalist agendas, one has huge problems with to create a kind of mass base for that, and that's in a very crude and simplistic way, what we're talking about here is what mass base there is for fascism a lot of the time. But I think it's also the case that a lot of the time it is not a question of them winning a kind of Darwinian argument for charisma. It is that there are no alternatives put. If you look at the American system, for example, it's been a very long time since any American president, you know, actually won the will of the majority of the American people. It's that, you know, to a certain extent similar in Britain, although not quite as exaggerated, that it's a question of, you know, if only a certain narrow range of opinion is on offer, then, you know, this is why things like mass abstentionism are political actions and so on. Yes, there are times when I think that's absolutely true, but I think there are also times in which it's really a question of choice being removed. And once... to bring it to communalism, once that then starts to dovetail with juridical relations so that you actually start making laws based on your communalism, then you literally remove the choice of any citizen to actually absent themselves from a communalist agenda. If they wish to be a citizen, if they, you know, and have those citizen, you know, if they want to be a citizen, they essentially become juridically complicit with a communalist agenda. And that's a particularly... aggressive thing to do, and we can see this in various places. This is one of the things, one of the reasons people are so angry about the law recently proposed in Israel for this exact reason, about the marriage law, the loyalty oath law, which is one of the things it's doing, I think, is this, for example. And there are other examples we could use.
Mais en quoi, à moins que Dimitri ait quelque chose à dire, parce que là on va revenir sur la science-fiction, mais. Sauf si tu as...
Moi, j'ai l'impression qu'on... Peut-être c'est parce que mes langues étrangères ne sont pas parfaites, qu'on discute plutôt les questions d'identité, non ? Voilà, l'identité dans le monde qui change, à qui nous nous attribuons, à quel groupe, et comment on peut manipuler l'attribution aux groupes différents pour obtenir le pouvoir. Et ce que nous fait revenir ce que les messieurs... on discutait, en fait, c'est divide and rule by Julius Caesar. On divise et voilà, et règne.
Diviser pour régner.
Diviser pour régner, tout ça. Voilà, tout à fait. Donc, et C'est pas la première fois dans l'histoire qu'on se fait manipuler par quelqu'un qui nous impose des fausses identités. Et voilà.
Ce micro, ça marche, oui. Il me semble que le communautarisme est basé sur un truc très simple. C'est pour ça peut-être que les leaders charismatiques font leur effet, c'est la peur. Et que donc ce sont des réflexes de peur. Donc la complicité se fait par la peur. Et j'ai l'impression que le communautarisme, c'est-à-dire l'exaltation des valeurs d'une communauté, c'est une forme de protection, c'est un mur qu'on se met autour de soi, comme si un mur pouvait arrêter les choses. Et un mur n'arrête jamais rien d'ailleurs, tant mieux. Mais voilà, ce sont des réflexes de peur, c'est l'instinct grégaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire se rassembler autour d'un truc en attendant l'attaque du prédateur. Donc on est dans un comportement archaïque, à mon sens. Mais je pense que justement, si on était vraiment en marche vers la civilisation, on devrait sortir des comportements archaïques pour avoir des comportements nettement plus productifs, intelligents, quoi. Et il faudrait réfléchir beaucoup, à mon avis, sur cette notion de peur. Et la peur de l'autre, bon, alors, si tu voulais faire le lien avec la science-fiction, oui. Après, la peur de l'autre, on la retrouve tout le temps, hein, dans l'alien, dans la civilisation qu'on ne connaît pas, etc. Et donc, c'est un thème qui est très fort en science-fiction, parce que justement, on est face à un danger extérieur potentiel, donc il y a une nécessité de protection. Et tout est basé sur la peur, je pense. Dans le communautarisme, pas la communauté, hein, encore une fois, pas le groupement d'individus qui s'installe dans un endroit pour survivre, qui crée ses propres codes, ses propres lois pour s'adapter le mieux possible à son environnement. Mais le communautarisme, c'est-à-dire l'exaltation, encore une fois, des valeurs de la communauté, je pense que là, on est fondamentalement dans la peur.
Oui, bien sûr.
To take that one step further, again, it's worth pointing out that fear and what constitutes the frightening is not given. It is not given by... I'm not suggesting you're saying this, but communalism is not a kind of a response thrown up to certain inevitable fears we have. To give you an example, in Britain in the 1930s, when there was a great wave of anti-Semitism in the East End of London around Mosley and the Black Shirts, the British fascists, one of the things that became a source of great anxiety and fear for some of the non-Jews who supported the Black Shirts was kosher slaughters, the way animals are killed in kosher slaughterhouses. Now the point is, you know, there have been Jews in London for centuries, and there had been kosher slaughterhouses for centuries, and many of the people had vaguely known how kosher slaughter works. But the point was, so there was no fear. No one was afraid of kosher slaughterhouses until, at a certain set of circumstances, an economic crisis, you know, the loss of housing, you know, all kinds of things. I mean, not to be too reductive, but there are certain external circumstances. And then at that point, somebody started saying, plus which, you know, they are threatening our very way of life by the way they kill cows. And people began to get scared. Now, if the same person had said this, you know, 10 years previously, it would have made no sense. No one would have been scared. It was a meaningless thing to say. So I don't disagree, but I would just want to take it one step further and say even the very constitutive nature of what constitutes those fears is manipulable.
Yeah, it's interesting to me in this regard that in the things that become meaningful as a result of the fear response have been documented pretty precisely. And what they discover is that when you are actually stressed, when you're in an environment that makes you afraid, you are statistically more likely to see patterns in random visual static. You are more likely to see faces in the clouds. Belief in things like astrology and other religions tend to increase during times of social stress. And one of the things that happens when you start seeing patterns that aren't there, I mean, we all do that. I mean, that's what when you dream, it's your brain trying to make sense out of random visual static in the visual cortex. So pattern matching is basically what we do. When you feel stressed and you start seeing all sorts of patterns that aren't there, it makes you much more susceptible to conspiracy theories. And so almost on a neurological level, what China is saying makes an awful lot of sense. When you are afraid, it's much easier to sort of suddenly decide that everybody with dark skin with a towel on their head as carrying a bomb. You make these generalizations, even though they're unwarranted, and even though you wouldn't have done it if you were feeling less stressed. Obama down in the States got an awful lot of flack at one point for claiming that in tough times people tend to turn to their guns and their religion. And in fact, that's literally true. You turn to your religion because you have a feeling of a sense of loss of control, and you turn to your guns because that gives you your control back. And these are, in a very real sense, not even political issues. These are, I think, fundamentally biological ones. And I don't mind being totally reductive.
Comment vous utilisez la science-fiction ensuite, et surtout quel type de message vous voulez faire passer à travers vos livres? Et là, je pense particulièrement au roman de Dmitri Gloukovski, Métro 2033, qui est, en termes de communauté et de communautarisme, là, assez saisissant, puisque une apocalypse nucléaire s'est déclenchée sur Terre. On est dans le métro de Moscou. c'est pas tout à fait au même endroit, je crois. On ne sait pas du tout si d'autres humains ont survécu ailleurs. On est vraiment centré sur Moscou. Et surtout, les couloirs du métro sont très dangereux. Mais quand je dis très dangereux, je suis même en dessous de la vérité. Ils sont pratiquement, par définition, mortels. Ce qui fait que chaque station de métro est devenue en soi une communauté, est devenue en soi un petit lieu. Et là, c'est assez fascinant de voir la division cellulaire quasiment auquel on a eu lieu, puisque les communautés sont totalement différentes les unes des autres. Il y a eu une espèce de prolifération de micro-sociétés comme ça, et très rapidement. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quand même un petit peu... c'est pas très très politiquement correct, surtout quand on voit l'histoire récente de ton pays, le passage de l'Union soviétique à la Russie, les problèmes avec la Tchétchénie et tout.
Bah, heureusement, les auteurs science-fiction, c'est une des seules catégories des citoyens qui peuvent se permettre de ne pas être politiquement corrects. Parce que ils font des prévisions, des prédictions, etc. Donc ils peuvent se permettre quand même go wild. Alors, dans le métro 2033, en fait, la situation, c'est comme vous avez dit, c'est les différentes stations qui deviennent de petits villages, des quasi-petites sociétés, des micro-sociétés, et après, ça se divise comme un portrait un peu caricaturesque de la société contemporaine russe, c'est-à-dire la société russe qui s'est établie après la chute de l'Union soviétique. Il y a donc tout d'un coup, on s'était permis des libertés politiques et la société homogène qui a été établie par les soviets s'est écrasée et a été déchirée dans les petits groupes, selon l'idéologie, selon l'ethnicité. Et donc, les stations de métro de Moscou, elles deviennent des petites sociétés. Il y a des sociétés, des stations contrôlé par les nazis, parce que il est apparu que le pays qui a vaincu, comme on dit chez nous, les nazis, il y a des nazis de chez nous, et qui adorent Hitler, etc., et jusqu'au présent. Il y a toute une ligne inhabitée, populée par des communistes, parce qu'on a toujours l'héritage communiste, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui sont très nostalgiques, et qui rêvent à rétablir un état communiste. Il y a bien sûr les sociétés ethniques, des caucasiennes, en Tchétchène, Azerbaïdjan, tout ça, tous les peuples de Caucase, formellement russes, maintenant Caucase juste indépendant, et toutes les petites républiques qui se sont devenues indépendantes. Mais par contre, Moscou, Moscou comme ville, elle est déjà un peu surpeuplée maintenant. Et il y a beaucoup de communautés d'immigrants, comme la communauté maghrébine en France ou les communautés d'Afrique du Nord. En Russie, il y a beaucoup de petites communautés des immigrés, soit d'Asie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, soit de Caucase, les Tchétchènes, les Géorgiens, etc., qui s'installent. Et c'est, avec ça, il y a aussi une levée certaine de nationalisme, comme réaction un peu sauvage, et pas civilisé. C'est... Et voilà, tout ça, donc, et on peut refléter dans le roman de Métro 2033, qui n'est pas seulement un roman de science-fiction, n'est pas seulement une dystopie, anti-utopie, mais qui est aussi un reflet, un portrait de la société russe en transition, la société russe qui a été tout d'un coup doté d'une liberté politique. Et j'ai conçu le roman dans les années 90, avant l'arrivée de Poutine, quand on était encore pas homogénisé de nouveau d'une façon un peu forcée, et donc quand on avait encore doté de cette liberté politique et qu'on était beaucoup plus divisé que maintenant. Dans mon bouquin suivant qui s'appelle Métro 2034, il n'y a plus de division, c'est surtout les drames personnels des héros, des caractères qui jouent le rôle beaucoup plus important. Là, maintenant, on est en train d'essayer de, on peut play down, détriver le rôle du communautarisme dans la société russe. Parce que dans un pays comme le nôtre, comme j'ai dit, c'est très dangereux de jouer cette carte, c'est très dangereux d'aller vers les groupes différents, parce que ça risque de péter le plomb et d'exploser le pays de nouveau.
Je pose un petit peu le même genre de, remarque pour China Mieville avec ton cycle de Perdido Street Station et les suites où on a aussi une représentation, dit-on, de Londres, de Londres, des quartiers difficiles, de la misère et puis surtout des communautés en but les unes avec les autres, puisque dans Perdido Street Station, le héros vit avec une femme képrie. C'est très très mal vu, quoi. Le métissage est quand même assez délicat. Je suppose que c'est totalement volontaire de ta part et tu as beaucoup beaucoup de choses à dire en la matière.
Well, in that particular book, he doesn't just live with someone who's in a different community, it's someone who's in a different species. And part of the pleasure of the fantastic is that you can exaggerate and grotesquify and metaphorize and so on. As Dimitri is saying, there's an inevitable, to some extent you can disguise things in an Aesopian way, or you can equally exaggerate them and become sort of quite surreal about them. But I don't think it's very complicated, really. It's if you want your fiction to resonate with a kind of realism, so you can have, you know, socially realistic, aesthetically fantastic science fiction. If you want it to resonate with a certain kind of social realism, then obviously communalism, broadly defined, is going to be part of any society that you depict. And at its most extreme, that's going to be issues of racism and so on, as you know, and interpersonal racism and intercommunity racism and so on. So, I mean. In simple answer to your question, that's how one does it. But I wouldn't parcel communalism out as a kind of special case. I think you can say the same about issues of gender. You can say the same about class and about exploitation and about government colonialism. Any of these things, if you want to have fiction which is in some way socially realistic, which is not your duty. I mean, I do it because I think it's more interesting, but you know, it's not an obligation. But if you do want to, then inevitably you're going to deal with that stuff, and that means issues like division, racism, and so on. Where I think you want to be careful as a writer is not to get into that really kind of crass allegorization where you create a certain alien race, for example, and they become a very, very thinly veiled allegory for, you know, fill in particular ethnic minority here, you know, and at its most absurd, you know, and this can be both tremendously offensive. I mean, you remember the reaction to the first of the new Star Wars trilogy when you had thinly veiled thinly veiled Jews in at least one case. Let's not be thinly veiled predatory Japanese businesses. You had a thinly veiled kind of cartoonish African character. You know, all kind of transmogrified into aliens, but equally very, very kind of uncamouflaged. The same was true in a much more heavy-hearted way with Star Trek, which used to do the Star Trek original series used to do this the whole time. Now, that when it becomes that kind of clunky, I think it makes for pretty unimpressive fiction, pretty unimpressive art. The stories have to believe their own logic as well. But the great thing about science fiction is that you can have it both ways. You can have a story which completely believes itself, which completely believes in its own monsters and its own species and so on, but also, inevitably, is riffing off real social issues, and anyone who's interested can talk about that. You really can have it both ways. Uniquely, I think, with science fiction and fantasy.
Tu as un mot à dire sur la lecture sociale de la science-fiction?
Évidemment, on ne peut pas faire l'impasse du... Ça marche?
Oui, oui, ça
on ne peut pas faire l'impasse du social dans la science-fiction. Ça me paraîtrait un peu incomplet, illusoire. On parle principalement de socialisation dans la science-fiction. Enfin, on parle des communautés, de comment elles évoluent, des pays, des comment les langues se transforment, comment les frontières, pour revenir au thème de cette année, s'élargissent et tout ça. Mais ce qui me semble, moi, dans l'aspect communautaire, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans l'aspect conditionnement communautaire. Et là, je vais faire appel à un penseur indien qui s'appelle Krishnamurti et qui dit que la pensée ramène toujours vers le connu. La pensée est apeurée et donc elle se fabrique un univers connu et elle ramène toujours vers le connu. Et je pense que cette histoire-là, de ramener toujours vers le connu, c'est-à-dire d'aller vers des endroits où on se sent en sécurité, finalement, dans une sorte de construction de pensée, je pense que c'est l'un des grands drames humains. C'est-à-dire que ça empêche une évolution fondamentale. On a une évolution technologique et tout ce qu'on veut, mais sur le plan humain, il y a assez peu d'évolution par rapport à l'évolution technologique. Et je pense que c'est à cause de cette façon qu'a la pensée de nous ramener toujours dans ses propres constructions, dont on ne peut pas sortir. Et le communautarisme, à mon sens, est une illustration de ces constructions mentales dans laquelle la pensée. Et les gens sont, non seulement, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en période de crise, peut-être les communautés sont beaucoup plus agressives les unes vis-à-vis des autres, puisque tout le monde se rejette la responsabilité de la crise, en gros. Beaucoup de gens, finalement, sont fiers d'appartenir à une communauté. C'est une question d'identité. Ils ont une identité connue dans laquelle ils se sentent bien, enfin, ou bien, ou rassurés. Et c'est ça qui m'intéresse de travailler aussi dans mes bouquins, c'est-à-dire c'est essayer de voir comment les personnages vont essayer de dépasser leur propre conditionnement, de sortir de leurs conditions, de leur communauté, de leurs habitudes, de leur système de pensée, pour faire évoluer les choses. Et je pense que c'est la définition même du héros dans les mythologies, c'est quelqu'un qui sort du conditionnement de pensée globale pour pouvoir aller chercher quelque chose de différent et ramener quelque chose de différent au reste des hommes. Et ça, c'est pour moi le propos même du personnage, principalement dans le genre science-fiction et dans d'autres genres imaginaires, puisqu'on est aussi dans des littératures d'initiation, à mon avis.
D'accord. Alors, ça va être le mot de la fin, puisqu'il est 20h30. Nous devons nous arrêter. Ah oui, c'est brutal, hein, vous avez vu. On m'a fait signe. Là, c'est... Ah, on s'arrête. Non, Marie m'a dit. Donc là, on va s'arrêter maintenant. Je tiens à remercier nos auteurs d'avoir participé à ce débat et d'avoir dit des choses fort intelligentes. Je tiens à féliciter particulièrement Dimitri, qui parle très bien le français et qui parle très bien d'autres langues également. Une petite mention aussi pour China Mieville, qui parle très bien le français, mais qui ne se sent pas assez costaud pour le faire comme ça. Et je tiens aussi à féliciter les traducteurs qui font toujours du très très bon boulot et qui nous permettent de suivre les débats. Voilà, je vous remercie et puis je vous invite à retrouver nos auteurs, peut-être pas dès ce soir, mais les autres jours pour les dédicaces.